Mondial Sport, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondial Sport, l'émission de tous les exploits aux quatre coins du globe et qui, après la Ligue des Champions la semaine dernière, reste sur un thème qui rassemble tout le monde, les finales. C'est simple à suivre une finale, à comprendre, à apprécier, même quand on n'est pas spécialiste de telle ou telle discipline. Les finales, ça ne se joue pas, ça se gagne quand on est sur le terrain, selon l'adage. Ça se suit, ça se regarde, ça se discute quand on est en tribune devant sa télé, derrière son transistor ou bien dans un studio. Dans celui de Mondial Sport, ce samedi, on va parler finale sur les parquets. Parquets africains, parquets américains. La Basketball Africa League, la NBA du continent, entame ses playoffs et son dénouement en Afrique du Sud, des phases éliminatoires qui ont bien débuté pour nos chouchous capverdiens de Creole Star, tandis que la NBA tout court, elle entame ses finales aux États-Unis entre Indianapolis et Oklahoma City, avec pour l'instant un avantage pour les Pacers du Camerounais Pascal Siakam face au Thunder du MVP Shai Gilgeous-Alexander. Alors forcément, si je commence à utiliser des surnoms, à name-dropper des joueurs comme si je m'y connaissais, je vais casser le côté rassembleur de ces finales. Alors pas de panique, le Mondial Sport de ce samedi, comme son nom l'indique, il est fait pour tout le monde et il met ses spécialistes au service de toutes et de tous. Pardon.
Eh ben c'est parti! Oklahoma City Thunder, Indiana Pacers. Elle est belle cette finale, elle peut être magnifique aux Pacers de nous montrer qu'ils ne sont pas là par hasard. Et rebond pour les Pacers!
La balle de match! La balle de match!
Oh là là là,
c'est dur. Liberton.
Il reste 3 dixièmes.
Le premier exploit, comme de par hasard, les Pacers viennent gagner à OKC. OKC qui n'avait perdu qu'un seul match contre la conférence Est de l'année, de la saison complète, viennent d'en perdre un deuxième ce soir.
Ils ont doublé le capital.
On est tombé les 3 dixièmes.
Scénario renversant et dénouement spectaculaire pour la première manche des finales de la NBA aux États-Unis. Le succès à l'extérieur à 3 centièmes du buzzer de la fin du match, donc des Pacers de l'Indiana sur le parquet du grand favori pour le titre de champion, le Thunder d'Oklahoma City. Ce n'est pas fini, le suspense reste entier. Car les finales NBA, ce n'est pas pour rien qu'on les met au pluriel, elles se jouent en plusieurs manches. Bonjour Karim Baldé.
Bonjour Hugo, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors, comme vous êtes l'homme qui sait tout sur tout, vous allez nous rappeler le principe de ces finales NBA qui ne se jouent pas en un seul match, comme la finale de la Ligue des Champions, par exemple, en football, et qui se joue en plusieurs matchs.
Effectivement, ça peut aller jusqu'à 7 matchs maximum. Le principe est simple, dans les finales, comme dans chaque tour de séries éliminatoires ou de play-off, la première équipe qui remporte 4 matchs remporte la série. Et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est bien parti pour Indiana, mais vu les scénarios renversants qu'on a eu depuis le début de ces play-offs NBA, ça promet beaucoup, beaucoup de suspense ici à la fin du mois de juin.
Karim Baldé en studio, à distance, notre correspondant aux États-Unis aux premières loges pour suivre ces finales NBA, Theo Kintard, bonjour.
Hello, hello, comment ça va?
Ça va très bien, Theo Kintard, je suis obligé d'utiliser
français.
La VF pour vulgariser au maximum, Wemby reporter, Rizaché reporter, je ne sais plus comment l'appeler désormais, il suit attentivement la NBA, la Grande Ligue de basket américaine. La deuxième manche de ces finales NBA, c'est demain à Indianapolis, hein, c'est bien ça Théo?
Ouais, c'est la nuit prochaine en France du coup, oui, c'est ça.
Et vous allez être sur place, vous suivez ça comment vous? Racontez-nous tout.
Alors, malheureusement, je suis aux États-Unis de Vendée, je suis rentré chez moi, voilà.
D'accord.
Je suis en France actuellement.
Bon, vous
n'en restez pas mal, c'est la plus mauvaise question à poser, du coup la réponse forcément, elle casse un peu l'effet américain du dispositif de Mondial Sport. Néanmoins, bon, vous êtes quand même embedded, hein, comme on dit, vous êtes largement à l'intérieur de la grosse machine NBA le reste du temps, donc votre analyse, elle nous sera précieuse des finales aux États-Unis, mais aussi en Afrique, en Afrique du Sud, plus précisément à Pretoria, le dénouement de la Basketball Africa League sous les yeux de notre MVP, la légende ivoirienne Malik Dao, qu'on tentera de joindre un peu plus tard dans l'émission. Et non, même pas, surprise, il y en a des retournements de situation dans Mondial Sport comme sur les parquets. Malik Dao, il est en direct, on a enfin réussi à le joindre. Bonjour Malik.
Bonjour Hugo, bonjour à tous.
Bon, la ligne, elle est...
Comme ci, comme ça.
On va voir si ça va passer comme pour Indiana à 300e de la fin. Ball ou NBA, en tout cas, vous vivez votre meilleure vie, mon cher Malik. On est ravis de vous retrouver. Évidemment, on est sur RFI, alors ça nous paraissait logique de commencer aujourd'hui par le dénouement de la Basketball Africa League. Here we go then, the first clash of the playoffs. Put it in, Uwo, make sure that that is slammed. Well, that's smoothly done, isn't it? Oh, look at this, McLeod, in he goes! That is sensational thinking! Brilliant play! Oh, red! Grand big three-pointer coming in. Here drops it up and down again! Straight up, oh look at this, McLeod, in he goes, that is sensational thinking. Brilliant piece of play there from Keir Starr. 6 seconds, they lead by three, gotta go for a three, big long range shot, it's been made safe by McLeod. Keir Starr have taken the victory. Après trois conférences en guise de saison régulière, à Rabat au Maroc, à Dakar au Sénégal et à Kigali au Rwanda, place au play-off, au dénouement entre les 8 équipes encore en lice dans cette Basketball Africa League, cette BAL, la balle, l'élite du continent dont fait partie cette saison Criolle Star, club capverdien, nouveau venu dans la balle, premier représentant du Cap-Vert dans l'histoire de celle qu'on surnomme la NBA du continent, parce que la balle est aussi organisée par la NBA. Criolle Star déjà qualifié pour les playoffs après avoir validé son billet à Dakar lors de la conférence Sahara. Au Sénégal, donc, pays d'origine du fondateur et du président de Criolle Star, une légende du basket sénégalais, champion d'Afrique lorsqu'il était joueur avec les Lions, et c'est un ami de Mondial Sport, on est ravis de le retrouver. Bonjour Joe Lopez.
Bonjour Hugo.
Ravi de vous retrouver, je le disais. Succès 91 à 88 face au FUS de Rabat en ouverture des playoffs de la balle hier à Pretoria. Votre fierté, j'imagine, elle est immense. Vous venez de la road to BAL, vous venez de la phase de qualification et cette route qui mène à la balle. Alors, sans préjuger de la suite, hein, sans dire que vous allez aller jusqu'au bout, pour l'instant, vous n'en voyez pas la fin. J'imagine que vous êtes très, très heureux.
Bon, Hugo, vous savez, nous sommes là pour gagner. Donc, on envisage la fin. On compte aller en finale. C'est ça notre objectif. Et on a les atouts pour le faire. Hier, on a fait un grand match. Et sans rentrer dans les détails, parce qu'il ne fallait pas qu'on montre toutes nos cartes à nos futurs adversaires. Donc, on a joué un match assez bidon. Bon, j'ai dit grand match, mais il fallait gagner à la fin. Oui, mais on n'a pas joué notre tactique en offense comme en défense. Donc, on ne voulait pas vraiment que nos adversaires de demain voient notre tactique. Mais en tout cas, on est prêt pour affronter l'équipe libyenne demain. Et restez à l'écoute. Vous allez voir de grandes surprises demain.
Parce que là, il y a 8 équipes dans ces playoffs. Le match que vous avez disputé hier, 8 équipes, ça devrait faire des quarts de finale. Mais ce n'était pas encore un quart de finale hier. Les quarts de finale, ils arrivent.
Oui, les quarts de finale commencent demain. On joue demain à 16h contre l'équipe de la Libye, Al Ahly, qui nous ont déjà battus durant la road to the BAL, mais à toute la balle. Et donc, j'attends ce match avec beaucoup d'impatience parce que c'est la revanche demain. Donc, on s'est bien préparé aujourd'hui aux entraînements. Donc, on est prêt pour demain, c'est sûr.
Donc, vous avez, entre guillemets, caché un petit peu vos munitions. Vous n'avez pas montré vraiment votre vrai visage. C'était qu'un un échauffement, quelque part, un petit entraînement, un petit tour de chauffe hier contre le Rabat.
Absolument, Hugo. C'est ce que nous avons fait. Nous avons, on s'est battu, mais on n'a pas joué avec beaucoup de tactiques, beaucoup de systèmes de jeu, parce qu'il ne fallait pas dévoiler toutes nos munitions. Donc, Demain, ce sera différent parce que demain, il faut gagner. Il faut gagner pour aller en demi-finale. Et c'est ce qu'on compte faire demain. On a bien scouté l'équipe adverse. Et je crois qu'on a mis une stratégie en place qui nous permettra de gagner le match demain.
Malick Daho, vous qui êtes à Pretoria et qui connaissez bien Joe Lopez, Malick Daho qui s'est de nouveau fait la malle en termes de ligne et de connexion, me signale qu'il ne faut pas demander à Malick Daho ce qu'il pense du parcours de Criolsa. Je reste avec vous, donc Joe Lopez, il n'y a que deux anciens vainqueurs dont ces 8 équipes qualifiées pour les play-offs, donc c'est les Tunisiens de Monastir et puis les Angolais du Petro de Luanda. Sinon, j'ai l'impression que c'est assez ouvert avec pas mal d'équipes qui, comme vous, découvrent les play-offs. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a vraiment un coup à jouer, que les cartes, c'est que la 5e édition de la balle, donc c'est encore une jeune compétition, les cartes sont toujours redistribuées et vous avez largement un coup à jouer. Il n'y a pas de complexe à avoir?
Ah non, jamais. Bon, comme vous savez, moi j'ai joué au plus haut niveau sur ce continent et même à l'étranger comme universitaire. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Nous, on a mis dans la tête de nos joueurs qu'on peut gagner et on est des champions et les champions agissent comme des champions. Et c'est dans notre mentalité. Nous, on est venus pour nous battre du début à la fin. Et si tu nous prends à la légère comme équipe, on va te montrer que on est là parce qu'on mérite d'être là. On ne nous a pas repêchés parce qu'on était les derniers. Hier, pourquoi on a gagné? Parce qu'on voulait montrer aux gens ce qu'on a battu Fus de Rabat, qui était dans la conférence du Kalahari. Et on voulait montrer à l'Afrique que le Cap-Vert avait sa place dans le Kalahari comme dans le Nil. Donc, mais on a terminé deuxième au Sénégal, mais on a mis troisième à cause des points du goal average, parce qu'on a gagné 3 matchs comme le Petro. Mais malheureusement, on a perdu de 29 points notre premier match. Et donc, on a battu Petro dans le deuxième match. Et donc, nous, dans notre tête, on est deuxième de la conférence Sahara. Et c'est comme ça qu'on apporte tous nos matchs, avec beaucoup de confiance et beaucoup d'abnégation. Parce que, comme je l'avais dit, une compétition internationale comme une balle, c'est comme un afro-basket. Ça se gagne. Ce n'est pas quelque chose qu'on prépare de midi à 14 heures. Il faut aller dans le terrain, mouiller le maillot, se battre et gagner tous les ballons 50-50 et prendre tous les rebonds offensifs comme défensifs. Et se battre. Et avec ça, on peut gagner. Voilà. Il n'y a pas de demain. Demain, pour nous, c'est aujourd'hui. Bon, demain, pour nous, c'est demain. On doit gagner.
Bon, voilà. Bah écoutez, même c'est moi, ça. J'ai envie d'entrer sur le parquet et de venir vous aider. Je ne serai pas très utile, mais vous êtes mobilisateur, Joe Lopez. On a envie de vous suivre, Karim Baldé.
Oui, bonjour tout d'abord et bravo déjà pour ce parcours jusqu'à présent. On entend ce discours justement volontariste et je le comprends parce que quand on sait que dans cette Basketball Africa League, c'est pas tous les ans qu'on y arrive, notamment pour les équipes qui viennent de se lancer dans cette compétition. Donc c'est vrai qu'on ne sait pas à quel moment l'opportunité va se représenter. Donc ça fait du bien d'entendre ce discours très volontaire en tout cas et très déterminé pour aller jusqu'au bout dans cette compétition. La particularité aussi, c'est qu'il y a un tour de classification. C'est le match précédent qu'a joué justement à Creole Stars, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas directement dans les play-offs, mais à ce tour qui permet de déterminer les placements et le tableau des quarts de finale et des demi, puis de la finale évidemment. J'avais juste une petite question par rapport à l'engouement que ça suscite au Cap-Vert justement. C'est pas un pays qu'on connaissait pour le basket, on l'a vu au foot par exemple avec des participations de l'équipe nationale du Cap-Vert à la CAN, ça a boosté le football. Qu'en est-il du basket capverdien avec votre parcours justement d'abord dans les phases préliminaires et maintenant dans la phase finale de cette Basketball Africa League?
Bon, il y a eu quand même, il y a un engouement avec notre jeunesse aujourd'hui à cause de ce que nous avons fait durant la Road to the BAL à la balle et aujourd'hui avec tout ce que nous avons fait à Dakar et maintenant à Pretoria. Donc, il y a la jeunesse qui vraiment nous regarde. Voilà. Maintenant, en matière de basket, les gens oublient qu'on a terminé quatrième au dernier Afro-Basket et on a le meilleur basketteur européen presque, c'est Eddie Tavares qui est capverdien, qui joue en équipe nationale. Il a été encore nommé MVP en défense cette année dans l'Euroleague et il joue au Real de Madrid. Donc, les capverdiens jouent bien au basket. On est une petite nation, mais on a de gros cœurs. Et je ne le jette pas comme ça, à l'air libre comme ça, mais si vous nous voyez jouer, vous voyez qu'on joue avec beaucoup de concentration et beaucoup de hargne. Et c'est ce qu'il faut pour gagner une compétition de basket, surtout en Afrique. Il faut... Et on joue de 0 à 40 minutes. Voilà. Et une chose que je voudrais dire, on a quand même, à mon avis, très humble, on a le meilleur entraîneur de la balle. Parce que avec les joueurs que nous avons, on joue, on a une rotation de 6 à 7 joueurs. Et quand même, on réussit à compétir ou bien à jouer contre les grandes équipes africaines. Et parce qu'on a mis dans la tête de nos joueurs que le basket, ça se gagne sur le terrain de basket. Ce n'est pas les noms qui importent, mais c'est ce qu'on apporte sur le terrain et les stratégies pour pouvoir mettre une attaque en place ou bien une défense en place pour contrer nos adversaires. Donc encore, je suis confiant parce que de nature, je suis confiant, mais on a nos chances, on est là, on va compétir, on est là, on va jouer.
Joe Lopez, vous dites « on » parce que bah, vous avez des origines capverdiennes, même si vous avez défendu et fait briller le Sénégal sur les parquets. Justement, il y a une proximité, donc Cap-Vert-Sénégal. Il n'y a pas d'équipe d'Afrique subsaharienne francophone qui soit représentée dans cette dernière phase, dernière ligne droite de la Basketball Africa League. Est-ce que, quelque part, Creole Star peut satisfaire, consoler les supporters francophones, notamment les Sénégalais? Est-ce que vous sentez, en Afrique de l'Ouest, plus généralement, qu'il se passe quelque chose, un frémissement autour de votre équipe?
Oui, bon, d'abord, j'aimerais quand même clarifier une chose. Moi, je suis Cap-Verdien, né au Sénégal. Mes deux parents, mon père et ma mère,
oui,
sont
tout à fait
d'origine du Cap-Vert, ouais, né au Cap-Vert, émigré au Sénégal. Donc, d'où vient le nom Lopez? Lopez est mon nom sénégalais. Et aujourd'hui, oui, le Sénégal devrait tout faire peut-être pour nous supporter. Mais bon, ça reste à voir parce que je n'ai pas encore eu une interview ou bien un entretien avec la presse sénégalaise qui pour peut-être, je ne sais pas pourquoi, pour poser des questions sur ce qu'on a fait. Parce qu'aujourd'hui, pour être honnête, je représente et le Cap-Vert et le Sénégal. Oui. Donc, en personne, il devrait peut-être me poser des questions comment on a fait pour arriver à ce stade. Oui, parce que n'oubliez pas que nous avons parti la ville de Dakar deux fois, aller-retour. Chez eux. Donc, ça veut dire qu'on a quand même une certaine connaissance de basket qui nous permet de rivaliser avec les grandes équipes de l'Afrique du continent. Et j'espère que le Sénégal va prendre note de cette émission et peut-être nous supporter demain. Parce que si on gagne, d'abord, c'est la zone 2 qui gagne. Oui. C'est la zone 2. Et nous, on fait partie de la zone 2 qui est dirigée par un Sénégalais, un ancien international et coéquipier de moi, Mathieu Fay. Qui est qui est président de la zone 2. Donc, on joue pour le Sénégal et le Cap-Vert.
Ben merci beaucoup, Joe Lopez. J'espère que le message est passé au Sénégal grâce à RFI. On vous souhaite bon courage. On espère que vous allez mobiliser vos troupes pour demain également. Puis on vous dit à très bientôt dans Mondial Sport.
À samedi prochain pour parler de la finale.
Le rendez-vous est pris, Joe. À très vite.
Merci, Hugo. Bonne soirée.
Merci, vous
aussi. Bonne soirée.
Cadeau. J'ai pris conscience, donc avec le sourire, c'est moi qui donne maintenant. Cadeau. Maintenant. Cadeau. Dieu merci, je pensais que je finirais ma vie dans le bâtiment. Cadeau. Bâtiment. Mettez la maillot. Mettez la maillot. Depuis le temps, j'ai appris à accepter cadeau qu'on me donne. Cadeau. Cadeau. J'ai pris conscience, donc avec le soin, c'est moi qui donne maintenant. Cadeau. Maintenant. Cadeau. Dieu merci, je pensais que je finirais ma vie dans les bâtiments. Cadeau. Bâtiments.
Davy One, jeu de jambes dans Mondial Sport sur RFI.
Halliburton looking. Halliburton driving. Pulls off. Jump shot. It's good. It's good. a second remaining. Timeout, OKC. Tyrese Halliburton does it again. Caruso looking, throws it up on the rim, knocked away, and Indiana takes game one. Shocking the Thunder here at OKC. The comeback kids do it again.
La finale de la NBA, les finales de la NBA, désolé, ma voix part un petit peu dans les aigus. Il fait froid à Paris en ce moment. La première manche remportée de manière spectaculaire, en matière de scénario en tout cas, par les Pacers de l'Indiana, 111-110, superbe scénario. Ça devrait donc ravir eh bien, les spectateurs, surtout les téléspectateurs américains, si importants dans l'écosystème hein, du sport aux États-Unis. Sauf que Théo Quintard, notre correspondant en Vendée, pour l'occasion, il paraît que les audiences étaient pas terribles pour ce premier match des finales.
Ouais, voilà, c'est ça. On avait déjà parlé un petit peu de la baisse des audiences plutôt dans la saison d'un Mondial Sport. Et du coup, là, c'était hors année de Covid, le score le plus faible depuis 1988 et le début de la mesure des audiences des finales. Donc voilà, c'est 19% de moins que l'année dernière, là, entre la finale, entre les Celtics et les Mavericks, seulement, entre guillemets, 8,9 millions de téléspectateurs pour ce match.
Et pourquoi ? Parce que ce sont des villes qui attirent moins de fans, parce que, comme vous l'avez dit, il y a peut-être un désamour global de la NBA, un peu des deux. C'est quoi les pistes avancées dans les médias américains ?
Un désamour global, non, je suis pas sûr, mais c'est que, on va dire que Oklahoma et Indiana, c'est pas les franchises, les équipes les plus sexy, je veux dire, c'est pas les Lakers, c'est pas les Knicks, voilà, faut quand même se souvenir pour recontextualiser un petit peu. C'est deux des plus petites agglomérations. Des États-Unis, c'est quoi, 1,4 million, je crois, et 2 millions pour OKC et Indiana. Donc forcément, ça ne suscite pas un engouement massif.
D'accord, c'est des villes qu'on pourrait retrouver du côté de la Vendée, par exemple. Il paraît que Malik Daou est de retour en direct dans Mondial Sport, en direct de Pretoria. Malik Daou, c'est dommage, on n'a pas pu vous faire réagir au propos de Joe Lopez sur la balle. Sur la NBA, vous avez pu suivre la première manche de la finale entre les Pacers et le Thunder. Et pourquoi, à votre avis, ce n'est pas une finale qui déchaîne les passions? Ça manque voilà, de franchises historiques, on va dire, qui drainent comme ça des wagons de fans derrière elles.
Voilà, pour moi, ce sont des petits marchés. Ce sont des petits marchés, donc mathématiquement, ça fait un peu moins de fans. Et puis, il faut dire que pour OKC, le fait que la franchise à l'époque n'était pas à OKC, elle a déménagé dans l'Oklahoma, qui est un petit marché. Donc, l'un dans l'autre, ça fait que c'est une finale qui n'est pas très suivie, sachant que Indiana non plus n'est pas un très gros marché de la NBA.
Donc, est-ce qu'on pourrait comparer, si c'était la finale de la Ligue des Champions, Karim Baldé à, je sais pas, un Monaco-Porto qu'on avait vu il y a quelques années? C'est-à-dire, entre guillemets, des petits clubs ou des petites villes, c'est quand même... Presque si comme Brest était allé en finale cette saison, il y a un petit peu de ça. Mais est-ce que d'un point de vue du jeu, et ça va teaser un petit peu la deuxième partie de l'émission, c'est pas les deux plus belles équipes qu'on a sur les parquets?
Ah bah si elles sont en finale, c'est qu'elles l'ont mérité. Et pour commencer par le Thunder de Oklahoma City, c'est clairement la meilleure équipe de la saison, meilleure équipe de la saison régulière. Et contrairement à la saison dernière, elle a su confirmé dans les matchs clés, dans les playoffs, quels que soient les scénarios, qu'elle ait beaucoup de points d'avance. Elle a gagné beaucoup de points avec au moins 20-30 points d'avance, mais aussi elle a su être accrocheuse dans des séries, notamment celle contre Denver, contre les Nuggets de Nikola Jokic en demi-finale de conférence, où là ça a été très serré, ça a été jusqu'au 7e et dernier match. Et on a vu que dans tous les cas, cette franchise, avec son MVP, son joueur de l'année, Shai Gilgeous-Alexander, a su toujours trouver des solutions. Et de l'autre côté, on a Indiana, le roi de la remontada. C'est pas que pour la rime que je dis ça, mais Indiana nous a réservé des scénarios complètement loufoques, notamment face à New York. Et puis, on l'a suivi justement, on l'a entendu dans le clip audio, lors du match 1 de la finale, où ils arrivent encore à remonter un déficit de 15 points pour mener. Ils ont mené 3 dixièmes de seconde dans tout le match de ce match 1, mais c'était les 3 dixièmes de seconde qui comptaient. Donc, voilà pourquoi, sur le papier, en tout cas, au niveau du jeu, c'est une finale plus qu'alléchante.
Les Pacers de l'Indiana, emmenés notamment par le Camerounais Pascal Siakam, qui a l'expérience des finales NBA, des titres NBA. On en parle d'ici quelques instants, mais on va parler de l'actualité la plus actuelle, en attendant d'une actualité la plus actuelle. Elle avait été teasée tout à l'heure dans les journaux par Nicolas Brousse, c'est bien sûr Roland Garros.
Mondial Sport.
Le tennis dans Mondial Sport, bien évidemment, car c'était le dénouement du tableau féminin, la finale dames de Roland Garros, le deuxième grand chelem de la saison, le grand tournoi de tennis de l'Ouest parisien. Nos envoyés spéciaux sont en direct, Eric Mamrut, Frédéric Suto, l'un des deux, les deux, messieurs, bonjour.
Salut Hugo, bonjour à toute la team.
C'est Frédéric.
Hello.
Je reconnais la voix de Frédéric.
Mais Eric est vraiment tout prêt, hein, il est là aussi.
Bon, bah alors j'imagine que tous les deux, vous avez pu, dans votre cabine sur le central, avec une belle vue sur le central, apprécier cette finale et le succès de l'américaine Coco Gauff.
Oui, ça se termine, hein, la cérémonie de remise des trophées. La musique vient de s'arrêter, les spectateurs quittent le court Philippe Châtrier. Mais on a attendu effectivement l'hymne américain. Hugo, ça faisait un petit moment. Hein, la dernière fois, est-ce que vous avez une petite idée, la dernière fois qu'on l'avait entendu
sur
le central? Ah, alors
Karim Baldé fait le malin.
Chez les dames, c'était Serena Williams.
Ouais, quelle année
Là, je suis un peu moins le malin, mais c'était quasiment une dizaine d'années.
Serena Williams, je pense que je l'avais.
Ouais, 2015. Bah 2015,
voilà,
Serena Williams et Coco Gauff qu'on présente peut-être comme la future Serena Williams. Alors bon, c'est des raccourcis parce qu'elle est afro-américaine, elle aussi. Elle est toute jeune, 21 ans. C'est son deuxième grand chelem. Le premier, c'était à l'US Open. Elle avait déjà battu en finale une certaine Arina Sabalenka avec un scénario qui avait ressemblé un petit peu à ce qu'on a vu aujourd'hui. Sabalenka avait gagné le premier set et derrière c'est Coco Gauff qui avait le mieux géré ses émotions. Je ne sais pas si vous l'avez suivi à la télé cette finale, hein. Y a eu des rebondissements. Arina Sabalenka, elle aurait dû la gagner 1000 fois en fait. C'est elle qui dictait le jeu, mais elle a tout fait, elle a fait les points, elle a fait les fautes. Elle menait 4-1, balle de 5-1, et puis elle s'est laissée rattraper, elle s'est énervée. Alors il y avait beaucoup de vent sur le central, mais ça n'explique pas tout. Il était là pour les deux joueuses. Beaucoup de doubles fautes dans les moments cruciaux pour la Biélorusse numéro 1 mondiale. Et puis, certes, elle a gagné la première manche, mais ça lui a coûté tellement d'énergie. Elle y a laissé tellement d'émotions. C'était un coup génial derrière, un coup complètement raté. Elle invectivait son box. Elle s'en prenait un petit peu à la terre entière. Il n'y avait plus rien dans le moteur derrière. Et Coco Gauff, on ne va pas dire qu'elle s'est contentée de renvoyer la balle, non. Mais derrière, elle a serré le jeu et elle a gagné les deux manches suivantes, 6-2, 6-4. Ça a duré quand même 2h38 minutes, hein, cette finale à Roland. Très, très belle finale, mais une Arina Sabalenka qui vraiment risque d'en faire des cauchemars pendant très longtemps. Ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, ce genre de scénario. C'était sa sixième finale du Grand Chelem. Elle en a gagné 3, mais elle en a perdu 3 avec à chaque fois un petit peu cette façon de perdre les pédales.
Bon, Frédéric Suto, merci de nous l'avoir fait vivre, cette finale dame, sur les antennes de RFI. Je vous propose qu'on se retrouve demain plus longuement. Alors, ce sera peut-être Eric Mamrut, peu importe, hein, vous êtes tous les deux les bienvenus.
Ouais, ce sera Eric. Hein.
Pour parler de la, avec plaisir, pour parler de la finale homme. Les finales à l'honneur, je vous l'ai dit, dans Mondial Sport ce week-end. C'est plutôt le basket ce samedi, mais ce sera le tennis et le duel tant attendu, le choc des titans Alcaraz-Sinner. Demain, sur les cours, la terre battue de Roland-Garros et dans Mondial Sport sur RFI.
Siakam, the catch, turns, shoots, and scores! What a shot!
What a terrific shot!
Pascal, congratulations. It was a career playoff high for you, my friend.
We're a team, you know. It doesn't matter who scores. That's what I love so much about this team. It's like, we don't care about who scores. We just want to win the game. So that's what makes us special.
It goes to the MVP of the Eastern Conference Finals. And that MVP is Pascal Siakam.
It's been such an amazing experience for me so far. From the first day I landed here, like, the love has been amazing. I'm just so happy to be here.
Pascal Siakam a brillé lors des finales de la Conférence Est qui opposait ses Pacers de l'Indiana aux Knicks de New York. Est-ce qu'il a également brillé lors du premier match des finales NBA? Et cette victoire vraiment in extremis sur un fil contre le Thunder d'Oklahoma City, 111-110. Vous en pensez quoi, vous qui avez suivi à l'époque des Toronto Raptors et ce titre 2019, ah, oui. Le Camerounais Karim Baldé, est-ce qu'il a été bon là sur le premier match de ces finales avec d'autres couleurs, le jaune désormais, est-ce que ça lui va bien le jaune?
Oui, ça lui va bien et il est complètement fondu dans ce collectif, il le disait justement en après-match, c'est vrai que Pascal Siakam c'est un facteur X et c'est pour ça d'ailleurs qu'Indiana est allé le chercher alors que le Camerounais était en perte de vitesse à Toronto. C'est un joueur qui peut vous faire gagner des matchs, c'est un joueur à la fois spectaculaire et qui est à la fois toujours au service du collectif. Et cette saison, ce qu'on peut noter, c'est sa constance, même dans les statistiques, entre ses statistiques sur la saison et ses statistiques sur les playoffs, ce sont quasiment les mêmes, à peu près 20 points de moyenne, 6 rebonds et à peu près 3 passes, mais c'est pour dire à quel point il est toujours au rendez-vous dans les moments clés et c'était le cas depuis le début des playoffs. Et dernier point pour Pascal Siakam, c'est sa connexion avec la star de l'équipe, Tyrese Haliburton, lui qu'on considérait comme le joueur le plus surcoté de la NBA, un classement non officiel paru il y a quelques temps qui disait que c'était avec Rudy Gobert le joueur le plus surcoté de la ligue, mais en tout cas leur connexion elle est là, il n'y a pas deux joueurs qui se connectent autant sur un parquet de NBA dans ses playoffs que Haliburton et Siakam, et les deux tirent vraiment cette équipe des Pacers vers le haut.
Malik Daou, il vous plaît ce Siakam cru 2025, lui qui a remporté, je le rappelle une nouvelle fois, la NBA en 2019?
Oui, le Pascal Siakam que je vois me plaît. Pourquoi? Parce qu'à Toronto, c'est un joueur de complément. La star de l'équipe, c'était Kawhi Leonard. Il y avait Ibaka à cette époque-là. Il y avait Fred VanVleet et lui, il faisait de bonnes choses, mais c'était un joueur de complément. Aujourd'hui, c'est vrai que la star, c'est Haliburton, mais pour moi, le leader, Maximo, comme je l'appelle, c'est Pascal Siakam qui est présent. Eh oui, il est présent en défense, il est présent en attaque et il est en train aujourd'hui de supplanter Miles Turner défensivement. C'est-à-dire que lui, il est capable de défendre sur un pivot, il est capable de défendre sur les quatre autres joueurs adverses sur le parquet, ce que Turner ne fait pas. Et il faut donner du crédit aussi à Rick Carlisle, le coach qui a réussi à trouver ce que Pascal Siakam pouvait apporter de plus en dehors de ce qu'il fait d'habitude, qui est déjà extraordinaire.
Il me semble qu'il a été le meilleur marqueur hein, de son équipe lors du premier match avec 19 points. Pascal Siakam, donc cette victoire assez, comment dire
On peut lui donner beaucoup de crédit dans cette victoire.
Miraculeuse.
Miraculeuse, oui, c'est peu de le dire.
À l'extérieur, sur le parquet du Thunder d'Oklahoma City. À mon avis, il y a quelqu'un qu'on peut accueillir dans notre rotation dans Mondial Sport, une autre membre de l'équipe Mondial Sport, une spécialiste des finales, puisqu'elle en a remporté, elle est médaillée de bronze olympique, championne du monde également, bon, en escrime, mais tout de même, le basket, elle l'a vécu et elle nous l'a fait vivre lors des JO de Paris l'été dernier. Et les finales France-États-Unis. Bonjour Sarah Danint.
Bonjour.
Ça fait plaisir de vous retrouver, Sarah. Ce dénouement de la NBA, parce que vous aimez le basket américain, vous l'avez suivi, vous le suivez, vous avez bien kiffé ce premier tour de ces finales NBA.
Oui, le basket tout court d'ailleurs, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour la NBA malgré tout. Et Siakam, c'est vrai que, pour revenir sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai que c'est un profil quand même assez fou. On ne l'attend pas forcément, comme là en défense, comme disait, je ne sais plus qui en parlait à l'instant. Et puis à Haliburton, moi j'en ai parlé, je crois que c'est chez vous d'ailleurs la dernière fois quand
vous aviez misé sur lui.
Paris, exactement. Et là, le dernier point à la fin du match, franchement, les Pacers, je trouve qu'ils sont assez carrés. Une jeune équipe, c'est leur premier play-off depuis plus de 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Mais là, c'est. Ouais, je trouve que c'est assez agréable à regarder. C'est résilient, bien comme il faut, une team assez solide, une bonne capacité à revenir comme on l'a vu plusieurs fois et c'est canon. Ça fait plaisir en tout cas.
Théo Quintard, on a entendu Pascal Siakam dans le petit clip audio dire On est une équipe, peu importe qui marque, finalement, on est une équipe, c'est ça que j'aime ici. C'est ça, on va dire, la force par rapport, on va en parler plutôt du côté d'OKC, un joueur, le MVP qui prend peut-être beaucoup la lumière. Est-ce que là, il y a quelque chose de l'ordre du collectif, de la force collective chez les Pacers de l'Indiana?
Je pense que ce sont quand même deux équipes avec des profils un peu similaires. C'est deux équipes qui jouent collectives. Oui, Shai Gilgeous-Alexander, c'est peut-être un leader un peu plus marqué. Mais je veux dire, sur la première période du match 1, OKC, voilà, qui est réputé pour sa défense, ils ont provoqué 19 pertes de balles en première mi-temps. Il y avait plus de 20 points d'écart. Mais je pense que ce qui est intéressant pour les Pacers, c'est cette étiquette d'underdogs, d'équipe pas attendue. Et je pense que c'est peut-être ce qui peut les faire gagner, parce qu'en tout cas, tous les pronostiqueurs donnent OKC largement vainqueur, 4-0, 4-1, 4-2. Mais personne, enfin, aucun gros média américain ne va donner les Pacers vainqueurs.
Non, il fallait écouter le gros média, pas américain, mais presque.
RFI.
Et Sarah Danand qui déjà misait sur les Pacers à l'époque de leur visite à Paris lors du match qui était d'ailleurs
Paris Week,
face aux Spurs de Wembanyama. On va dire au revoir à Malik Daho. La rotation, toujours, on n'a pas le time ici. C'est le haut niveau, c'est la NBA. Malik Daho, ce fut bref, mais ce fut un plaisir de vous retrouver. Vous avez aussi la Basketball Africa League à suivre du côté de Pretoria. Donc, bon vent à vous, bon courage à vous et à très vite dans Mondial Sport, Malik Daho.
Last night, the Thunder Zone, Shai Gilgeous-Alexander was named the Kia NBA Most Valuable Player. At center court, Kia America's Vice President of Sales Operations, Eric joins NBA Commissioner Adam Silver to present the Michael Jordan Trophy to the 2024-25 Kia NBA Most Valuable Player, Shai Gilgeous-Alexander!
Congratulations! You are the NBA Kia MVP.
Donc l'autre individualité à mettre en lumière, on en a parlé plusieurs fois déjà dans ces finales NBA, c'est évidemment le MVP Kia, c'est important de citer le partenaire, Shai Gilgeous-Alexander, donc du côté d'OKC, donc le MVP de la saison en NBA. Sarah Danant, ce joueur, quoi qu'il arrive, il aura marqué les esprits cette saison, quel que soit le dénouement de la finale.
Oui, c'est un joueur assez fou. Hein. Alors, après, je suis pas une spécialiste de basket. Hein. Moi, je suis vraiment une fan de basket. Après, moi, ce qui entre guillemets me dérange dans ce genre de configuration, c'est que oui, c'est un joueur fou, c'est un joueur assez précis, assez fort, etc. Qu'on met en lumière. Mais du coup, effectivement, quand on compare aux Pacers, qui est une équipe assez solide et qui a ce collectif avec plusieurs joueurs à Haliburton qui est aux alentours de 19-20 points et puis Siaka justement qui est au-dessus de 20 et chez eux il y a leur MVP justement qui marque, qui score hein. c'est quand même bien aussi là son rôle, mais derrière c'est un petit peu plus loin en termes de score et c'est souvent je trouve ce qui fait défaut un peu dans ce genre d'équipe.
Il écrase un peu l'équipe, c'est ça.
Il y a toujours des exceptions hein. Bien sûr il y a du LeBron, il y a du Kobe Bryant, il y a du Jordan mais c'est je pense que du coup ça le met bien en lumière mais ça efface voilà un petit peu ses coéquipiers je trouve.
Shai Gilgeous-Alexander, contrairement à Pascal Siakam, il n'est pas canadien d'adoption, il est canadien tout court. Donc forcément, ça vous fait réagir, Karim Baldé, ce que dit Sarah Danant.
Évidemment, je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que dit Sarah. Je suis d'accord sur le côté statistique pur, ça c'est vrai. En revanche, je ne trouve pas qu'il écrase les autres. Et là, je rejoins plutôt ce qu'a dit Théo un peu plus tôt dans l'émission, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs autour de lui qui arrive à se sublimer aussi, notamment sur les playoffs. Hein. Je peux prendre plein d'exemples. Chet Holmgren, parce qu'on parle beaucoup de Victor Wembanyama, mais le numéro 2
au repêchage l'année de Wemby, c'était quand même Chet Holmgren. Et lui, il est en finale NBA. Il avait été pas mal perturbé par des blessures sa première année. Et là, quand même, il apporte beaucoup défensivement. Pareil pour Hartenstein, qui arrive à sortir des contres au bon moment également. Pareil pour Alex Caruso, qui arrive toujours à marquer peut-être 10-15 points, mais ce sont ces points-là qui font la différence. Donc, il n'y a pas que SGA. Il n'y a pas que Shai Gilgeous-Alexander dans cette équipe. D'ailleurs, petite précision par rapport au Canada, il y a quand même 4 joueurs canadiens dans cette finale NBA. Et il y a aussi pas mal de joueurs francophones, parce qu'on peut parler notamment donc de Pascal Siakam côté francophone, mais côté canadien, il y en a 2. Il y a Mathurin du côté d'Indiana et il y a Lou Dort qui est d'origine haïtienne et qui a grandi dans les quartiers défavorisés de Montréal et qui se trouve dans cette finale aux côtés donc, de SGA, né à Toronto. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez, petit quiz d'où vient sa mère, justement?
Non, elle vient d'un
tout petit pays dans l'Atlantique, qui s'appelle Antigua et Barbuda. Elle avait représenté ce pays aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 en athlétisme.
Ça, c'est intéressant. Une belle lignée sportive.
Exactement.
Un beau voyage à travers le monde. C'est très RFI. Et d'ailleurs, Théo Quintard, ce qu'on peut remarquer, c'est que vraiment le titre de MVP, il est plus international que jamais. Donc, c'est souvent Jokic ces dernières années, le Serbe. Ça a fait un détour par le Cameroun et Joel Embiid en 2022. Là, le Canada, alors on se rapproche, hein. On reste va dire, dans le territoire de la NBA, mais ce n'est pas les États-Unis. SGA, comme l'appelle Karim Baldé, il a été au rendez-vous sur le premier match, il est au rendez-vous de ses finales, il sera l'arme d'une remontée, si remontée il y a, d'OKC.
Bah, c'est clairement l'arme numéro 1 d'OKC, et vous parliez tout à l'heure du fait que c'était un leader très très présent. Sur le premier match, il prend 30 tirs sur un match de 48 minutes, il joue 39 minutes, il met 38 points, donc bah oui, il a fait son match, mais à la fin, ils ont totalement dégoupillé face aux Pacers qui broient un petit peu leurs adversaires en fin de match.
Est-ce qu'il il dégage quelque chose de spécial, Sardin? Vous ne vouliez pas tout à fait le comparer déjà ou le mettre dans la même catégorie que les Kobe Bryant, Michael Jordan ou LeBron James? Bon, effectivement, c'est peut-être un petit peu haut là, mais est-ce qu'il a quelque chose comme ça qui attire particulièrement l'œil?
Oui, c'est sa faculté à absorber le contact et à se faufiler entre les défenses. Je veux dire, c'est un joueur très, très, très élastique. Et après, ce qui marquera l'histoire, je pense que c'est plus la postérité qui le dira. Mais je pense que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est qu'il peut devenir le premier joueur depuis LeBron James en 2013 à avoir le titre de MVP de saison régulière, MVP de finale de conférence et peut-être, si OKC gagne, MVP des finales NBA. Donc, ce serait quand même assez historique.
Ah oui, le LeBron James période Miami, hein, si ouais. Ma mémoire est bonne. Sarah, je vous pose la question, vous, ce joueur, au-delà du fait que vous êtes un petit peu sceptique sur le fait qu'il prend peut-être un peu trop de place dans le collectif, est-ce que c'est ce genre de joueur quand même qui vous plaît, qui, en tant que fan de NBA, fait que vous vous levez pour regarder les matchs?
Oui, alors en fait, je suis pas sceptique au fait qu'il. En fait, c'est pas tant écraser les autres joueurs, c'est que le truc, c'est qu'on voit quasi que lui, mais c'est aussi parce qu'il est au-dessus des autres. En fait, c'est plutôt dans ce sens-là. Après, oui, c'est le genre de joueur qu'on aime aussi voir. Alors moi, je suis vraiment une barge hein, de NBA, donc c'est vrai que ça fait quelques temps que je me suis pas levé, mais il y a le ballon, il va le chercher, il va scorer. Enfin, il est créatif, il a envie d'amener quelque chose. Éventuellement aussi peut-être de marquer effectivement l'histoire de la NBA, ça on saura effectivement peut-être plus tard, mais moi j'adore les joueurs créatifs, j'adore les joueurs qui vont scorer, j'aime plus le score que les défenseurs, mais pour autant on a aussi besoin de défenseurs pour aller scorer et je sais plus qui en plateau qui disait justement que c'est aussi par lui que les autres arrivent à se révéler, notamment le défenseur qui le nom m'échappe il y a 2 secondes, qui a été annoncé, mais
alors soit Holmgren soit Hartenstein.
Merci. Oui,
c'est ça. En tout cas, c'est un vrai leader si on vous suit. C'est-à-dire qu'il permet à tout le monde d'élever le niveau. Mais alors vous qui étiez déjà enthousiaste sur les Pacers de l'Indiana, est-ce que, comment vous la voyez cette finale? Est-ce que OKC, qui a été la meilleure équipe de la saison, toute conférence confondue, si je puis dire, va revenir, Sarah Danint? Ou est-ce que avoir pris un avantage à l'extérieur pour les Pacers de l'Indiana, ça va être d'ores et déjà décisif?
Les Pacers ont gagné à la dernière. Enfin, c'est le dernier shoot d'Haliburton, hein, quand même. Hein. Donc, déjà, ils n'ont pas mené pendant tout le match et gagné de plus de 20 points. Enfin, voilà, il y a un premier match qui a été fait. Il y a plusieurs matchs qui vont s'enchaîner. Derrière, OKC, okay, si, effectivement, première équipe, ils ne vont pas se laisser faire. C'est quand même une finale, et en plus, une finale d'NBA, avec le MVP, MVP de ouf dans leur équipe. Moi je pense, bon après je suis quand même pour les Pacers, mais je pense que ça va quand même je pense qu'il y aura quand même deux victoires de Cassie à suivre. Et après j'aime bien aussi quand ça se challenge, quand on est à deux partout et qu'il faut aller chercher des points derrière, mais non Cassie va passer se faire, c'est évident.
Karim Baldé,
c'est ça qui va être super, super intéressant.
Vous le voyez comment? Ouais, quand je disais qu'OKC était plutôt favori à la base.
Oui, c'est logique. Ah, c'est bien sûr, OKC est favori parce que c'est le fruit d'une construction, d'une très belle construction d'une équipe déjà autour donc de celui qui est maintenant le MVP, Shai Gilgeous-Alexander, avec donc de très bons lieutenants, comme je le disais tout à l'heure sur le terrain. C'est aussi une équipe qui a en mal de succès. On se souvient de l'époque, de leur précédente finale d'ailleurs, hein, dans les années 2000, je crois que c'était 2012, il me semble, avec James Harden, avec Kevin Durant et Russell Westbrook. Donc c'était un autre trio, mais cette fois-ci je trouve qu'ils sont plus complets que l'époque de 2012. Donc ce serait un aboutissement logique, on va dire, pour le Thunder d'Oklahoma City. Mais les Pacers, première finale depuis 25 ans. La dernière fois c'était en 2000. Et d'ailleurs, qui était l'adjoint du côté d'Indiana? Et c'était Rick Carlisle, qui est donc l'entraîneur en chef actuel des Pacers. Donc là aussi c'est un beau signe, et on va voir si les Pacers arrivent à accomplir ce que personne n'aurait imaginé. Faut le dire très clairement, en début de saison, même à l'entame des playoffs, on est tous d'ici, Cleveland, Boston, et on voit Indiana à la fin. Donc ça, c'est vrai qu'on est tous surpris par le niveau affiché et par la mentalité affichée par Haliburton et les Pacers.
Mais ça, justement, c'est un peu la transition parfaite, hein, la passe décisive pour ma dernière question sur le buzzer. Avant le buzzer, Théo Quintard, est-ce que cette finale, si on prend un recul sur la saison, c'est la finale la plus logique? C'est vraiment les deux meilleures équipes qui s'affrontent, pas forcément celles qu'on attendait au tout départ, mais au final, c'est celles qui ont été vraiment les meilleures. Ou alors, est-ce que vous auriez peut-être vu une autre équipe à la place de, peut-être pas d'OKC, mais des Pacers de l'Indiana?
Alors, finale attendue, non, parce que les Pacers, je les attendais vraiment pas là. On les a vus à Paris. On a fait une émission un petit peu sur les matchs à Paris des Spurs et des Pacers. Jamais je les aurais imaginés en finale. Après, la logique, ça aurait été Boston ou Cleveland. Mais Cleveland reste encore une jeune équipe avec un nouveau coach, Kenny Atkinson. Donc, il manquait peut-être d'expérience et ça s'est fait ressentir. En début de playoff, voilà, j'aurais mis une petite piécette sur les Clippers de Nicolas Batum notamment, mais malheureusement
c'est comme d'habitude,
ils
les Clippers
se sont fait éliminer. Oui, c'est un peu comme d'habitude. Mais voilà, ils ont poussé quand même les Nuggets à un match 7, mais un match 7 où ils n'ont pas du tout existé. Donc
comme d'habitude.
Voilà, OKC, c'est pas une surprise. Les Pacers, ça en est une, mais je pense que OKC va se défaire des Pacers sans trop mal, parce qu'il faut se rappeler aussi que OKC avait été s'était fait gifler sur le match 1 contre les Nuggets, et après ils avaient très très bien réagi. Donc voilà, c'est une équipe qui a du cœur, je me fais pas trop de soucis, je pense qu'ils vont gagner assez facilement, mais si on peut avoir un match 7 pour le suspense et la beauté du basket, moi, je signe tout de suite.
Bon, écoutez, vous nous les avez bien vendus, ces finales NBA, Théo Quintard, Sarah Danint, Karim Baldé et même Malik Daho, qui a fait une apparition fugace, mais qui a soigné ses statistiques. Hein. Quelques
Exactement.
Prises de parole très bien senties. Merci Hélène Avril. Merci à Cetus Samaké dans les coulisses de cette magnifique team Mondial Sport, ce All-Star de Mondial Sport. Demain, on parlera un peu moins de basket, beaucoup moins même, et on parlera beaucoup plus de tennis, la finale homme de Roland-Garros. En attendant, une excellente soirée à l'écoute de RFI.